Temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Voilà, bonsoir à tous. Au micro, Bagassi Koura pour ce bulletin d'information en République centrafricaine. Une nouvelle flambée de violence à Bambari dans le centre-est. Les violents affrontements ont opposé hier et aujourd'hui deux factions rivales de l'ex-Séléka. Au moins une vingtaine de combattants auraient péri dans le combat et plusieurs autres blessés. Trois membres d'équipage d'un hélicoptère de la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, ont été tués. Leur appareil s'est écrasé dans le nord du pays, selon la MINUS. La mission onusienne a indiqué avoir ouvert une enquête pour déterminer les causes de la chute de l'hélicoptère. L'hélicoptère qui s'est abîmé dans une zone où des combats sont régulièrement signalés. Découverte macabre au Burundi, plusieurs cadavres, certains ligotés ou dans des sacs, ont été récemment découverts flottant dans la partie burundaise du lac Rweru, qui sépare le Rwanda et le Burundi. C'est ce qu'ont annoncé les autorités de Bujumbura, citées par l'agence France Presse. Des pêcheurs de la commune burundaise de Gitiranyi ont dit avoir aperçu une quarantaine de corps flottant sur le lac depuis début juillet, selon le président de leur association, cité par l'AFP. Kigali a démenti ce mardi que les corps proviennent du Rwanda. Le MNLA et les autres mouvements politico-militaires du Nord Mali sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. Ils veulent harmoniser leur position avant la reprise des négociations d'Alger, suspendues il y a plusieurs semaines. Sur les objectifs de la rencontre, on explique que le MNLA et les autres mouvements veulent mettre sur pied une plateforme sur l'état de l'Azawad. L'Égypte et les Émirats arabes unis sont soupçonnés d'avoir mené des raids aériens contre des positions d'une milice islamiste dans la capitale égyptienne. C'est ce que rapporte le New York Times, citant des responsables américains. L'aéroport international de Tripoli est sous contrôle des miliciens islamistes de Fajr Libya. Le constat a été fait ce mardi par un photographe de l'AFP lors d'une visite organisée pour la presse dans cette installation stratégique du sud de la capitale. Aucune activité militaire n'a été signalée dans le secteur lors de la visite organisée par le service de presse des miliciens islamistes. Ceux-ci ont annoncé avoir pris l'aéroport à l'issue de 10 jours de violents combats avec des miliciens nationalistes de Zenten, ouest de Tripoli, qui tenaient cette installation depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a limogé son conseiller spécial Abdelaziz Belkadem, selon une source à la présidence citée par l'agence APS. Ancien président de l'Assemblée nationale et ancien patron du FLN, le parti au pouvoir, Belkadem a aussi exercé sous la présidence de Bouteflika les fonctions de premier ministre et de ministre des Affaires étrangères. Il a été par ailleurs demandé au secrétaire général du FLN, le Front de Libération Nationale, de mettre fin aux fonctions de M. Belkadem au sein du parti. Selon la même source, aucune explication n'a été immédiatement fournie à cette décision brutale et inédite. C'est ce qu'on appelle un vrai rêve brisé. Les 20 ministres de Malawi rêvaient en effet de voir leur salaire augmenter de près de 600%. C'est une demande immorale, a tranché le président. Les ministres qui sont actuellement payés environ 1 500 $ par mois souhaitaient obtenir 8 800 $ mensuels. Ils ont justifié leur demande par une hausse du coût de la vie. Et en comparaison, les 170 000 fonctionnaires de ce petit pays gagnent en moyenne 100 $ par mois. Et puis, crise au Proche-Orient, nouveau cessez-le-feu illimité à Gaza entre Israël et le Hamas. Un accord qui intervient après 50 jours de combat dans l'enclave palestinienne le long de la Méditerranée. Un haut responsable du mouvement islamiste a déclaré que la longue trêve mettrait fin au blocus israélien et égyptien de Gaza et prendra en compte d'autres exigences palestiniennes lors des négociations dans les prochaines semaines. Des milliers de Palestiniens célébraient dans les rues de Gaza l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Ce conflit de 50 jours a fait plus de 2130 morts dans l'enclave palestinienne, selon l'AFP.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Jacques Aristide avec vous en lieu et place de Camille Gros-Didier pour le magazine de l'économie. Formule particulière ce soir car la parole est à vous, Faites-nous part de vos problèmes, des problèmes économiques auxquels sont confrontés vos pays. Y a-t-il des solutions? Quelles sont-elles? Racontez-nous également les difficultés que vous rencontrez au quotidien pour joindre les deux bouts. Pour m'accompagner dans cette émission, j'accueille Henri Kamandenzouzi, expert en relations internationales, en ligne de Bruxelles. Bonsoir Henri, merci de nous rejoindre en direct.
Bonsoir, tout le plaisir est pour moi.
Alors, sans plus tarder, direction Afrique, évidemment, pour prendre un premier appel. Nous avons Gaston au téléphone. Gaston, qui est le président fondateur d'une ONG qui s'appelle UEFS International. Gaston, c'est quoi cette ONG ?
Oui, je suis le président fondateur de l'ONG UEFS, qui signifie Union des élèves et étudiants pour la fraternité et la solidarité.
Alors, dites-nous, quels sont d'après vous les principaux problèmes ? Y a-t-il des solutions ? Allez-y.
Oui, il y a des solutions. Au fait, ici en Afrique, le problème provient de nos dirigeants africains qui ne font pas d'efforts pour pouvoir sortir la population de la souffrance. Ils sont là tout moment en train de regarder les ambitions à eux-mêmes et non l'ambition même de l'Afrique. Donc pour avoir la solution pour pouvoir régler les problèmes ici en Afrique, je pense que l'État doit regarder d'abord, premièrement, la jeunesse africaine. La jeunesse africaine sans l'éducation et que les gouvernements doivent également baser leur politique sur l'éducation. Sans l'éducation en Afrique, l'Afrique n'est rien et l'Afrique ne peut pas évoluer. Et c'est ce qui empire la pauvreté ici en Afrique. L'éducation, le manque d'éducation ici en Afrique appauvrit l'Afrique.
Merci bien Gaston. Un commentaire Henri, jeunesse, dirigeant africain, éducation, pauvreté. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est une préoccupation légitime dans la mesure où on observe malheureusement sur le continent africain les élites qui se désintéressent de la jeunesse, ce qui est quand même assez dommage puisque on peut la considérer à juste titre comme étant l'un des parents pauvres de beaucoup d'États qui ne pensent pas consentir les efforts qu'il faut pour qu'elle puisse à la fois s'émanciper, se développer et bénéficier d'un système éducatif qui soit suffisamment performant. Je crois que le message qui vient de nous être délivré est une interpellation qui devrait inciter les dirigeants africains, en tout cas ceux qui se respectent, de prendre toute la mesure de la gravité de la situation pour éviter justement que cette jeunesse ne se révolte.
Mmh. Beaucoup de commentaires, je dois dire, sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. La première personne qui nous a envoyé un commentaire, c'est Messan Ivan. Alors, lui dit, nous, Africains, devons insérer dans nos programmes la bonne gouvernance et la culture de l'excellence. Et ça, je dois dire, Henri, c'est un commentaire qui revient régulièrement. Bonne gouvernance.
Oui, la bonne gouvernance, c'est vrai que c'est une notion qui est apparue il y a de cela une bonne vingtaine d'années où on a vu petit à petit les institutions financières internationales et les ONG pointer du doigt les manquements à ce niveau. Mais c'est un terme qui peut également englober la nécessité pour les gouvernants de pouvoir se réapproprier les valeurs les plus humaines en termes de gestion des ressources, en termes de gestion tout court du pays en tant que dépositaire de toute une série de projets qui vont dans le sens du développement d'une nation. Et si la gouvernance n'est pas au rendez-vous, nous avons malheureusement la gabegie financière et tout ce que cela implique comme conséquence négative. Et ce n'est pas un vain mot. Et je pense qu'il est important que les dirigeants africains aient présent à l'esprit que sans cette notion importante, il sera difficile de remettre sur les rails les États dans la voie du développement.
Cap sur la Guinée maintenant pour accueillir à l'antenne Mansa Karinka Doumbouya. Nous vous écoutons. Allez-y.
Oui, bonsoir à toute l'équipe de La Voix de l'Amérique. J'appelle de la Guinée-Conakry et je voudrais participer à l'émission. Pour savoir, moi j'ai tout juste une question à poser au sujet des dirigeants africains. Vous qui êtes économiste et de la politique, internationale. Que pouvons-nous, qu'est-ce que les chefs d'État africains, les dirigeants africains, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être indépendamment vis-à-vis, indépendant, pour être en quelque sorte, comment, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être indépendants économiquement de l'Occident? Parce que, vu toutes les richesses qu'on parle de l'Afrique, surtout particulièrement de notre pays, mais moi j'ai l'impression que tout ce qu'on a eu, mais ça ne nous a servi à rien. Qu'est-ce qu'il faut qu'on donne à nos dirigeants africains pour qu'ils soient indépendants économiquement?
Henri,
parce que la politique, là, on n'en parle pas, mais économiquement, qu'est-ce qu'il faut?
Oui, voilà. Nous allons écouter ce que pense Henri. Allez-y, Henri.
Alors, je crois qu'aujourd'hui, le grand problème pour les pays, notamment africains, c'est d'avoir la pleine maîtrise de leurs ressources naturelles. Or, il se trouve que malheureusement, dans le cadre de l'exploitation de ces ressources, ces pays, ces États ne maîtrisent pas toujours à la fois la technologie, mais également les circuits de distribution et de production, ce qui les rend malheureusement tributaires d'un certain nombre d'entreprises qui font qu'aujourd'hui, bon nombre de gouvernements africains voient une part importante de la production de ces ressources-là envoyées donc à l'étranger, soit pour être transformées, soit pour être vendues. Ajoutez à cela le fait que nous avons en Afrique, et ça c'est une observation remarquée depuis pas mal d'années déjà, que nos élites sont malheureusement extraverties. Pourquoi ? Parce qu'elles ont trop facilement ou trop rapidement adhéré à des valeurs dites occidentales, négligeant par la même occasion l'essence même de leur pouvoir, c'est-à-dire le mandat qui leur a été donné par leurs concitoyens pour développer leur propre pays. Je crois que pour résoudre ce problème, il faudrait d'abord une réappropriation par ces élites des problèmes du pays. Il faudrait également que les opinions publiques soient en capacité de faire pression sur leur gouvernement pour leur rappeler les engagements pris, notamment en période électorale, quant à la manière de pouvoir conduire efficacement le destin de leur pays.
Alors Henri, justement, puisque nous parlons d'indépendance économique, ce qui me vient à l'esprit maintenant, ce sont les BRIC qui viennent d'être créés. Alors le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont mis sur pied leur propre banque de développement. Alors parce qu'ils estiment que ces pays-là sont mal représentés dans les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale. Hein. Et d'ailleurs, la présidente brésilienne Dilma Rousseff a parlé d'une reconfiguration de la gouvernance économique mondiale, en parlant aussi, voilà, contre les dictats de l'Occident. Je sais que vous avez un commentaire intéressant à faire sur les BRIC. Alors, faites-nous part de ce commentaire, Henri.
Alors, la création de cette banque de développement par les cinq pays des BRIC répondait à une nécessité. C'était effectivement de rééquilibrer la gouvernance mondiale au niveau économique et financier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les institutions dites de Bretton Woods, telles qu'on les connaît aujourd'hui, Banque mondiale et Fonds monétaire international, n'ont pas toujours pris la pleine mesure des capacités des pays émergents à pouvoir mener à bien, avec leur propre vision, sans contrainte aucune, les projets d'investissement et de développement qui étaient les leurs. Et donc, partant du principe que les États-Unis, pour ne pas citer ce pays, qui utilise le Fonds monétaire international comme un instrument de son influence, eh bien, ces pays ont décidé, à leur manière, de pouvoir créer les conditions d'un rééquilibrage à ce niveau-là. Alors, il faut peut-être rappeler que cette nouvelle banque aura un capital de départ de 100 milliards de dollars. Alors évidemment, nous sommes très loin des 1000 milliards du Fonds monétaire international ou des 250 milliards d'engagement de la Banque mondiale, mais cela suffit en tout cas à permettre un nouveau débat au sein de la communauté internationale sur la meilleure manière de traiter équitablement et efficacement le problème à la fois de l'endettement, des investissements et tout simplement du développement des zones les plus, disons, fragiles ou sensibles. C'est une manière également d'offrir une alternative aux pays du Sud quant à leur capacité de pouvoir se développer.
Alors, direction maintenant Niamey, Niger. Au téléphone, nous avons Bassirou Garba Saleh. Nous vous écoutons. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Soyez bref, précis, concis, parce qu'il y a beaucoup d'appels et il y a beaucoup de commentaires également. J'aurais aimé quand même partager ces commentaires à Facebook. Allez-y, Bassirou, nous vous écoutons. Allô, est-ce que Bassirou m'entend ? Peut-être un petit problème, voilà, un problème technique, un problème de liaison téléphonique, et pas de souci. Voilà, un autre commentaire, que l'Occident arrête de piller les ressources de l'Afrique et qu'il arrête d'imposer des dirigeants marionnettes, qu'on confie l'Afrique aux Africains et il y aura une croissance économique. Henri, c'est un autre commentaire, je dois dire, qui est récurrent, parce qu'on dit qu'il y a des politiciens, des dirigeants africains qui sont mis là par l'Occident. Donc, on parlait de ça tout à l'heure, Dicta. Est-ce que c'est un commentaire objectif, Henri?
Écoutez, moi, je serais tenté de dire que depuis l'accession des pays africains à l'indépendance, il y a une constante. Hein, c'est que la plupart des dirigeants avaient une forme de légitimité extérieure qui leur était nécessaire pour pouvoir mener à bien leur mission à la tête de leurs États respectifs. N'oubliez pas que à ce moment-là, nous étions en pleine guerre froide. Aujourd'hui, depuis 1989, cela n'est plus le cas. Mais il est vrai, je l'évoquais tout à l'heure dans l'un de mes commentaires, que l'extraversion des élites africaines fait que ces élites ont accru, à tort ou à raison, leur dépendance vis-à-vis de certains lobbies, de certains réseaux sur lesquels ils reposaient ou fondaient leur pouvoir. Alors, c'est vrai que on remarque de plus en plus une sorte de désengagement de la part de ces mêmes élites en faveur de leurs États, parce que la logique de marché s'est petit à petit imposée, privilégiant des intérêts extérieurs, occultes ou particuliers, au détriment de l'intérêt général. Mais à ce problème, je ne vois qu'une seule réponse. C'est bien évidemment le recours au suffrage universel pour pouvoir porter au sommet de ces pays des gens responsables, mais avec évidemment le risque que le jeu ne soit malheureusement faussé, puisque la plupart des dirigeants en place n'ont pas du tout l'intention d'organiser les élections pour les perdre.
Doumbaya est toujours avec nous. Allez-y, hein, vous avez une autre question, nous vous écoutons.
Bon, je voudrais demander, je dis souvent, il y a des gens qui disent que, bon, que les chefs d'État africains, les dirigeants, en général, les dirigeants africains se font tromper par les dirigeants occidentaux. Quand je regarde un peu les chefs d'État dirigeants, la plupart des chefs d'État dirigeants, ce sont des amis des chefs d'État européens, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, ils ont tiré ensemble, ils se connaissent. Est-ce que pouvons nous dire que bon, qu'on les trompe ou bien, je sais pas, c'est une question de volonté ou bien c'est une question, je sais pas. Je voudrais que si vous pouvez m'éclaircir ça un peu, parce que, par exemple, quand je prends certains dirigeants, par exemple en Afrique de l'Ouest, la plupart des dirigeants actuels de l'Afrique de l'Ouest, ils connaissent l'Europe, ils ont étudié là-bas. C'est même les mêmes amis qui dirigent du côté des deux côtés. Bon, quand on regarde un peu, bon, par exemple, tout est la même chose, mais je voudrais savoir, c'est les présidents ou bien c'est les gens qui les entourent ou bien c'est une question de volonté ou bien...
Rapidement.
C'est un don de Dieu, l'Afrique.
Rapidement, Henri, rapidement.
Alors, une première chose, c'est qu'on ne peut pas reprocher aux dirigeants africains de nouer des relations personnelles avec des homologues ou d'avoir fréquenté ces gens-là. Bon, il est vrai que certains ont fréquenté les mêmes universités, mais cela étant, il y a quand même un principe de réalité. Lorsque vous êtes à la tête d'un État, vous devez veiller aux intérêts, bien compris, de votre pays et de vos concitoyens. Tout cela dépend de l'éthique personnelle qui anime chacun des dirigeants. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui contraints de pouvoir compter ou espérer que les comportements individuels seront conformes au mandat qui est accordé à ceux qui ont la charge de diriger ces pays-là. Voilà, c'est une question à la fois personnelle, mais aussi de volonté politique.
Voilà, un autre auditeur de la Guinée nous attend au téléphone. Sylla, merci d'être avec nous. Allez-y, Sylla, très rapidement. Hein.
Voilà, je vous remercie en ce qui concerne cette question économique. Moi, je dirais tout simplement que et l'Afrique, et l'Europe, et les États-Unis, et presque tous les cinq continents savent que l'Afrique n'est pas libre. Quand on parle d'indépendance en Afrique, c'est une indépendance qu'on doit mettre entre guillemets parce qu'on a acquis l'indépendance, mais il s'agit de quelle indépendance? Est-ce que c'est l'indépendance politique, économique, culturelle ou quoi? Culturellement, économiquement et politiquement, presque sur tous les plans, nous sommes toujours dépendants. Donc, puisque la question est basée, l'émission est basée sur l'économie, alors moi je voudrais tout simplement faire comprendre aux auditeurs et à l'opinion internationale que l'Afrique toujours n'est pas libre économiquement. Parce que les pays africains sont incapables, c'est-à-dire à travers leurs propres moyens ou efforts, de financer leurs grands projets de développement, quand même, de s'en sortir sur le plan économique. On ne comprend pas avec toutes les richesses dont regorgent les différents pays africains. Quand je prends mon pays, la Guinée, qui est appelé un scandale géologique, tous les jugements du monde qui se donnent rendez-vous ici, mais nous souffrons. On a du mal à financer.
Voilà, Sylla, on a compris, Sylla, merci. Merci, Sylla, on va essayer de donner la parole à d'autres auditeurs. Le temps passe très vite, mais nous allons marquer une petite pause. Et quand nous allons revenir, nous allons parler de l'impact économique de l'épidémie Ebola. Et voilà le magazine de l'économie, très particulier ce soir parce que la parole est à vous et également des commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Et là, j'ai un commentaire de El Papi Mbuyamba qui nous dit « Le problème aujourd'hui qui inquiète toute une nation, c'est la présence d'Ebola dans mon pays. » Henri, voilà, la propagation de cette épidémie est dangereuse. Hier, on a entendu les responsables de l'OMS dire qu'il va falloir encore 6 mois pour résoudre, pour peut-être, comment dirais-je, contenir cette épidémie. Quel impact cela va avoir sur les pays affectés, Henri ?
Alors, je pense qu'il est important de noter que l'impact est d'abord psychologique et que cet impact psychologique induit au niveau économique et au niveau des investissements une baisse significative en termes d'activité. Il faut savoir que les 3 pays d'où est partie l'épidémie, hein, il faut le rappeler, Sierra Leone, Libéria et Guinée, qui font partie des plus pauvres du monde, vont être confrontés, sont déjà confrontés à un désengagement massif d'investissements étrangers dû à cette épidémie. C'est un premier élément. Deuxième élément, l'activité nationale sera ralentie, et pas seulement dans ces 3 pays, mais dans les pays comme la République démocratique du Congo, même si à l'heure actuelle c'est circonscrit dans le nord du pays, dans la province de l'Équateur, mais dans d'autres pays où là, pour le coup, on observe la montée progressive d'une forme de psychose qui va également alimenter tous les soupçons par rapport à la capacité réelle ou supposée de ces pays de pouvoir venir à bout de cette épidémie. Et c'est là que le rôle de l'OMS sera déterminant, sans oublier bien évidemment les milieux sanitaires et pharmaceutiques à qui il incombera la responsabilité, eh bien, de trouver le plus rapidement les voies et moyens pour éradiquer ce fléau.
Et voilà un autre commentaire Facebook, celui de Théophile Louembwe de la RDC, de la République démocratique du Congo. Je me demande pourquoi les Occidentaux n'implantent pas en Afrique de raffinerie, ni moins des usines de fabrication de produits tels que véhicules, avions. L'Afrique exporte des matières premières à l'état brut et très moins cher pour acheter des produits finis, 100 fois plus cher. Un petit commentaire rapide là-dessus, Henri ?
Oui, je dirais simplement que à l'heure actuelle, les Occidentaux n'ont pas du tout intérêt à faire cela. Ils ont plutôt intérêt à ce que la dépendance de l'Afrique s'accroisse davantage en contrôlant à la fois la technologie qui permet de transformer les matières premières ou les ressources naturelles pour justement faire en sorte que cette dépendance perdure. Il faudrait simplement une décision d'autorité, comme l'a fait Evo Morales en Bolivie, en nationalisant de façon massive toute une série de secteurs qui jusqu'ici étaient majoritairement contrôlés par des compagnies étrangères. Mmh.
Faisons un saut maintenant au Bénin. Au téléphone, nous avons Maroufou Abiodun Bonou. Nous vous écoutons.
Vous savez, l'Afrique même ne favorise pas l'investissement qui vient de l'étranger. Et cela se justifie. Nous n'avons aucune politique de développement, pas du tout. L'Afrique va faciliter l'investissement. Vous allez voir qu'il y a tellement la corruption et ça fait chasser les gens. Quoi. Ça fait chasser les gens. Dans ces conditions, nous ne pouvons jamais parler d'une indépendance économique. Ça, c'est faux. L'Afrique, le développement de l'Afrique dépend des Africains eux-mêmes. Et nous devons nous réunir et bannir une fois plus devant la corruption. Sinon, on parlera seulement du développement, mais rien, rien, rien.
Allô. Mais Henri, l'Afrique ne peut pas se passer des investissements étrangers. Et justement, quelle est l'importance de la présence chinoise en Afrique ?
Alors, déjà, une première chose, c'est que contrairement aux Occidentaux qui imposent souvent des conditionnalités, la présence chinoise permet à des pays africains d'accéder à des facilités sans avoir à justifier un certain nombre de d'obligations, comme le respect des droits de l'homme, de la démocratie, etc. C'est peut-être le seul point noir que l'on peut observer sur cette question. Ajouter à cela le fait que, aussi généreux que puissent être les Chinois, aussi pragmatiques que puissent être les Chinois, il y a quand même le problème de la désindustrialisation en Afrique, puisque les Chinois ne sont pas coutumiers du transfert de technologie. Donc aujourd'hui, il est bon de les accueillir à bras ouverts, mais il faut savoir également que les Chinois, une fois le boulot terminé, eh bien, ne vont pas laisser, je dirais, les éléments permettant aux pays africains ayant bénéficié de sa présence de pouvoir continuer à tirer profit de cette technologie, puisque ce transfert n'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc le risque, c'est de passer d'une dépendance vis-à-vis des Occidentaux à une autre dépendance vis-à-vis des Chinois.
Yabré Henri Jouel a écrit sur notre page Facebook « L'économie africaine est au stade embryonnaire. L'Afrique a besoin d'une politique économique forte. Pour cela, nos dirigeants doivent encourager les investisseurs en réduisant les différentes taxes et leur octroyer un prêt à faible taux. Ensuite, l'élevage et l'agriculture, qui sont les piliers de l'économie en Afrique, doivent subir de grands changements en passant de l'agriculture de subsistance en une agriculture de rente. Un petit commentaire, Henri ?
Oui, je crois que c'est le sens des regroupements régionaux qui doivent être encouragés pour essayer de créer des synergies entre zones géographiques compatibles où existent des affinités en la matière. Mais je crois qu'il est aussi important, et c'est un mouvement que l'on observe fort heureusement dans certains pays, qu'il y ait une politique interne, enfin nationale plutôt, interne, en faveur des investissements dits locaux. Parce que le grand reproche qui est souvent fait aux gouvernements africains, c'est de ne privilégier que les investissements étrangers, alors que vous avez un tissu petites et moyennes entreprises qui ne demandent qu'une chose, bénéficier d'un soutien de l'État qui ne vient pas toujours, malheureusement. Mais heureusement, il y a dans certains pays des efforts qui sont déployés dans ce sens.
Mmh. On parle beaucoup de cette croissance africaine et certains commencent à parler même de l'émergence de la classe moyenne en Afrique. Vous y croyez, Henri ?
Écoutez, petit à petit, hein, j'ai vu par exemple des chiffres. Il faut savoir qu'en 2003, par exemple, il y avait à peine 4,9 millions de foyers considérés comme appartenant à la classe moyenne sur le continent africain. Aujourd'hui, on est à 15 millions de foyers. C'est une étude de la Standard Bank, une banque sud-africaine. Mais vous savez, on parle de taux de croissance très flatteur, mais force est de remarquer que les fruits de cette croissance ne sont pas équitablement répartis pour une simple et bonne raison. C'est que dans la plupart des pays, certains secteurs clés de l'activité nationale restent très dépendants de l'extérieur. Donc je crois qu'il faut rééquilibrer cette situation en allant vers d'autres segments de l'activité nationale, comme l'agriculture par exemple, où là, pour le coup, il serait possible de créer effectivement des niches permettant au gouvernement de dégager des marges suffisantes pour pouvoir encourager le développement.
Henri, je dois dire que cela a été un plaisir de vous accueillir sur cette antenne. Vos commentaires, vos analyses très éclairées comme on dit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les auditeurs, à toutes les auditrices qui ont pris part à cette émission ce soir. C'était le magazine de l'économie, formule particulière ce soir parce que la parole était à vous. Lionel Gaïma était à la réalisation, Jacques Aristide au micro. Et certainement vous allez retrouver Camille Grosdidier pour une édition normale la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Voilà, très bonne soirée sur la VOA.